José Moselli, Les mystères de San Francisco. John Straubin s'assure sur la vie. Les temps sont durs. À aucune époque de la vie ne fut plus âpre. Si l'art de soutirer l'argent de la poche ou du coffre-fort de son semblable n'a jamais été si perfectionné, il faut avouer que la science apportée à mettre à l'abri ce même argent est également ingénieuse et stupide. Chaque jour, il devient plus difficile de s'approprier le bien du voisin. Toutes les combinaisons, ou presque, ont été essayées. Elles sont connues et, par là, de nulle valeur. Il faut en trouver d'autres. Refaire son prochain devient un art qui, hélas, est à chaque instant entravé par des policiers ignares. Oui, les temps sont durs. Ces pessimistes constatations, John Straubin dut certainement se les faire lorsqu'il combina l'affaire la plus hasardeuse de sa carrière, celle qui suffirait à légitimer sa célébrité. De fait, John Straubin joua là une formidable partie, et son audace fut d'autant plus étonnante que rien ne l'obligeait à tenter une aussi téméraire entreprise. Semblable à certains joueurs heureux, la difficulté et l'épouvantable enjeu de cette partie l'attirèrent. On ne peut expliquer qu'ainsi l'acte de John Straubin. Ce fut un peu avant 10 heures du matin, un lundi pour préciser, que le détective cambrioleur engagea son affaire. Vêtu élégamment d'un costume de drap gris souvent sur un gilet brodé, les pieds chaussés de fins souliers de peau blanche, un panama de $1000 en un banc sa face énergique, John Straubin quitta l'hôtel Monterey, où il avait passé la nuit, et de son pas souple et rapide, se dirigea vers le colossal building de la San Francisco Life Insurance Company, la plus riche compagnie d'assurance sur la vie de tout l'Ouest américain. Sans hésiter, John Straubin franchit le monumental porche de marbre et pénétra dans le salon d'attente, acajou et or, où de nombreux huissiers se tenaient à la disposition du public. John Straubin s'en avisa un et de la main lui fit signe de le rejoindre. L'homme obéit. John Straubin tira de sa poche un mince portefeuille de maroquin chiffré d'or. Il en sortit une carte de visite ainsi libellée « John ». Il l'attendit à l'huissier en disant « Remettez ma carte au directeur immédiatement, je n'ai que peu de temps à moi. » Bon, c'est pour une très grosse affaire à régler sur le champ. Allez !» L'huissier s'inclina et, tout en se dirigeant vers le bureau du directeur de la San Francisco Life, il jeta les yeux sur la carte qu'il tenait. « John, en voilà un nom. Mister John, enfin, on en voit de drôles dans la vie. Quel peut être ce client au nom si court ?» Telles furent les réflexions de l'huissier. Aussi, ce fut avec une physionomie légèrement narquoise qu'il pénétra dans le vaste hall qui servait de cabinet de travail à M. Santleo Ward, président de la San Francisco Life Insurance Company. M. Howard saisit la carte que lui tendait l'huissier et, à son tour, marqua quelque étonnement à la vue de ce nom laconique, John. Il demanda « Quel est cet homme? Est-ce un gentleman ?»« Oh, je crois, monsieur le directeur, il possède un Panama au moins aussi beau que celui du président Shaft. Il dit qu'il vient pour traiter immédiatement une très grosse affaire et... »« Well, faites-le entrer. » L'huissier s'inclina et sortit. Il regagna le salon d'attente et vint dire à John Straubin, qui attendait en fumant une odorante cigarette, « Veuillez me suivre, gentleman. » John Sabine eut un léger sourire. Vraiment, il était très calme. Il saisit la main de l'huissier et il glissa une banquenote de 10 $ en murmurant « Voici pour vous remercier de votre zèle, mon ami. Comment vous nommez-vous ? Thomas Burton. Bien. Bon, alors je vous suis, Thomas Burton. » Aux côtés de l'huissier, John Swabbins arriva devant la porte du cabinet directorial. Son guide l'ouvrit, s'effaça pour laisser passer le visiteur, referma et s'en retourna. John Swabbins, très poli, s'inclina légèrement devant le directeur de la San Francisco Life et, avec une aisance, un naturel parfait, s'assit dans le fauteuil que M. Howard lui désignait de la main. Et il parla. L'affaire qui m'amène ici est assez importante. Vous jugerez donc bon, monsieur, qu'avant tout, je vous donne quelques éclaircissements. M. Howard hocha la tête affirmativement. Il tenait toujours dans sa main la bizarre carte de visite, comme pour en demander l'explication. John Swabin s'en aperçut. « Oh, j'en ai bien mon nom, » dit-il. « J'en ai en vérité un autre assez connu, je dirais même plusieurs autres, mais parlons du but de ma visite. Bien que vous ne me remettiez pas, je vous connais assez, monsieur Howard, pour savoir que vous êtes homme d'honneur et, comme tout bon Américain, désireux de faire des affaires. Eh bien, ce sont ces deux raisons qui m'ont décidé à m'adresser à vous pour ce qui motive ma présence ici. Je vous écoute. Mon nom vous est connu. John Strabins. » Monsieur Santley Howard tressaillit légèrement. Il tourna les yeux vers le bouton d'ivoire d'une sonnerie électrique posée sur son bureau. « Oh, monsieur Howard, ne craignez rien !» fit vivement le détective cambrioleur. « Je viens ici en client, vous entendez, en client. Pour une fois, je me mets sous la sauvegarde des lois. Et là, je vieillis, je vais avoir 30 ans dans 3 mois. » Et le moment est venu pour moi de penser à l'avenir. John Swabbins fit une pause. Ses yeux rencontrèrent ceux de M. Howard qui le regardait avec un étonnement évident. Il poursuivit. « Oui, j'ai étudié les lois générales de l'Union et celles particulières de l'État de Californie. Je sais par conséquent qu'un contrat d'assurance est insaisissable et inviolable. » « Je ne me trompe pas, n'est-il pas vrai ?»« Parfaitement, » répondit le directeur de la San Francisco Life, qui maintenant avait repris son calme. « Eh bien, vous me faites plaisir de me l'affirmer. »« Vous le savez, j'ai commis de nombreuses peccadilles. Je veux dire que j'ai fait du commerce à ma façon. »« Certains commerçants s'enrichissent en cédant contre du bon argent, des marchandises de nulle valeur. Des artistes acquièrent la fortune en changeant des couleurs de place. Ils les mélangent, les retirent de leurs tubes et les étendent sur des toiles. Et qu'ai-je fait d'autre après tout ? J'ai pris l'argent de mes contemporains et ne les ai même pas embarrassés d'objets sans valeur. Supériorité sur les commerçants. Mon art s'est exercé dans la serrurerie. J'ai trouvé l'art d'ouvrir les plus solides coffres-forts. Je puis donc dire que je mérite la modeste fortune que mon ingéniosité me valut, n'est-ce pas ? Bon, vous savez, moi, murmura M. Howard, qui ne voulait pas se compromettre. Vous êtes bien aimable, cher monsieur. Donc, ayant acquis une fortune, je désirerais qu'à défaut de moi, un malheur est si vite arrivé et les policiers sont bien maladroits. Mes descendants, ou pour mieux dire mes amis, en profitassent. Je voudrais m'assurer sur la vie, de façon à ce qu'en cas de mort, ma fortune ne disparaisse pas. » Monsieur Howard respira. Certes, la proposition était au moins étrange et inattendue. Assurer John Stubbins sur la vie, l'affaire apparaissait scabreuse. Mais quelle publicité pour la San Francisco Life Insurance Company! Quel pouvait être le mobile de John Stubbins? Monsieur Howard se le demanda. Après tout, lui ou un autre, pourvu qu'il payât régulièrement les primes, on ne pouvait lui en demander davantage. Et il parla. Votre désir est très naturel, cher monsieur. Et pour quelle somme désirez-vous vous assurer? John Stubbins fronça les sourcils. Oh, pour une somme assez forte. Car, bien que mon argent soit déposé presque en totalité à l'étranger, j'ai de nombreuses propriétés dans le territoire de l'Union et je désirerais que mes héritiers en touchassent au moins l'équivalent. Je voudrais m'assurer pour, oui, pour 3 millions de dollars. 3 millions de dollars? Monsieur Howard s'attendait à tout, sauf à l'énoncé d'une somme aussi énorme. Il répéta. 3 millions de dollars? Oui, 3 millions de dollars. La San Francisco Life n'a-t-elle pas les reins assez solides pour me garantir cette somme, moyennant le paiement d'une prime convenable? Bon, sinon je m'adresserai ailleurs. Monsieur Howard se redressa. Oh non, monsieur Marbouni, le roi du saumon, est assuré chez nous pour 10 millions. Oh, mais je le connais, tenez, voici une bague qui me vient de lui, répondit Stubbins très calme. Bref, combien devrais-je payer de primes annuelles? Monsieur Howard saisit un cahier à reliure de cuir rouge posé sur son bureau. Il le feuilleta en murmurant. Je ne sais vraiment pas en quel métier vous rangez au point de vue des risques professionnels. Voyons, agent de chemin de fer, non. Officier en mission aux Philippines, non. Votre métier est encore plus dangereux. Ah, policier, oui, policier. Somme toute, vous courez les mêmes risques. Policier, oui, policier. Alors, la prime est de 10% pour risque supplémentaire. Oh, c'est un peu cher, coupa doucement John Stubbins. Somme toute, ma vie est plus en sûreté que celle des policiers. Ne tuant jamais personne, je me risque ainsi pas d'être tué. Si je suis pris, je ne serai jamais condamné qu'à la prison, et l'on vit longtemps en prison. Non, 12% suffisent. D'autant plus que je suis jeune, que ma santé est bonne, ma constitution excellente. Voici un certificat du professeur Alan Gourdon qui l'atteste et que j'espère vivre longtemps. 12% sur 3 millions de dollars, cela fait 360 000 dollars par an. Si vous acceptez, je vous remettrai immédiatement un chèque de cette somme sur la Californian Bank. Naturellement, il est bien entendu que l'assurance devra être payée à la personne désignée par moi, quel que soit mon genre de mort, n'est-ce pas? J'entends que cette condition soit nettement spécifiée sur ma police. Oh, parfaitement, cela ne souffre aucune difficulté. Pourvu toutefois que votre mort soit légalement constatée par un officier de l'état civil, affirma M. Howard. Eh bien, nous sommes d'accord. Alors, cela va à 12%. M. Howard resta silencieux. Il prit le certificat médical que John Stubbins lui tendait et l'examina. Il était en règle. Somme toute, l'affaire paraissait intéressante. John Robbins était sain, jeune, habile. Il vivrait certainement plus de 10 ans encore. Et alors, quel bénéfice! Sans compter la publicité excellente que l'annonce de ce contrat allait constituer pour la compagnie. Eh bien, cher monsieur Robbins, je vous demande 24 heures pour consulter le conseil d'administration sur l'affaire que vous me proposez. Je crois que nous nous entendrons. Mais il est bien spécifié que les primes seront payables annuellement et d'avance. Le moindre retard entraînant la déchéance et les primes restant acquises à la compagnie. Mais vous espérez donc me voir coffré, cher monsieur Howard, dit Robbins railleur. Bon, n'importe, j'accepte. Le détective cambrioleur se leva. Aimable, il s'inclina devant le directeur de la San Francisco Life Insurance Company et se dirigea vers la porte en disant « À demain !» Le lendemain de la visite de John Robbins au digne monsieur Howard, tous les journaux de San Francisco publièrent en gros caractères la note suivante. Quel est le critérium de l'honorabilité d'une entreprise et de sa fidélité à tenir ses engagements? Sans hésiter, nous pouvons dire, c'est l'estime des voleurs. L'estime des voleurs? La San Francisco Life Insurance Company a mieux que cela. Par un choix flatteur entre tous, le célèbre détective cambrioleur John Robbins s'est adressé à elle pour faire mentir le proverbe qui dit que bien mal acquis ne profite jamais. John Robbins, on ne peut que l'en féliciter, a voulu que ses compagnons, s'ils venaient à mourir, récupérassent en partie la perte que leur causèrent sa disparition. Il s'est assuré sur la vie pour la coquette somme de 3 millions de dollars à la San Francisco Life Insurance Company. Le plus faible commentaire affaiblirait la portée d'un pareil acte. La confiance de John Robbins, homme méfiant par nécessité, témoigne de la réputation d'intégrité qu'a su se faire la San Francisco Life Insurance Company depuis sa fondation, qui remonte à 1867. Nous tenons à la disposition des incrédules la copie authentique par la municipalité de la police, souscrite par John Robbins. Pour tout renseignement, s'adresser à M. Stanley Howard, directeur. Ce jour-là, M. Howard, comme tous les autres jours, arriva à son bureau à 9 heures. C'était un homme de principe. Il s'assit dans son fauteuil et, suivant sa coutume, attira à lui les journaux épars devant lui pour les lire. Ayant signé la veille le contrat d'assurance de John Robbins, il avait, dans la soirée, envoyé aux journaux la note citée plus haut, avec ordre de la faire passer en première page, et ne doutait pas qu'une annonce aussi sensationnelle ne décupla le chiffre d'affaires de la San Francisco Life. Aussi, ce fut avec un sourire satisfait qu'il ouvrit la première feuille qui lui tomba sous la main. C'était le Pacific Times. Il est certain que M. Stanley Howard s'attendait à voir le nom de John Robbins imprimé en lettres grasses sur la première page de ce journal. Mais il est encore plus certain que le directeur de la San Francisco Life n'espérait pas que ce soit en si gros caractère. Car le nom de John Robbins flamboyait sur la manchette du Pacific Times en lettres hautes de 3 cm. À la vérité, les mots dont était entouré le nom de John Robbins détruisaient entièrement toute l'influence que cette publicité inattendue aurait pu avoir sur les clients éventuels de la San Francisco Life City. L'attorney général Harry Baudelaire, assassiné par John Robbins. Le magistrat a été retrouvé ce matin, poignardé dans son appartement de la Florida Avenue. Notre enquête. Pendant quelques instants, Stanley Howard se demanda s'il ne rêvait pas. John Robbins, assassin. Lui qui ne tuait, ne blessait même jamais personne. Et cela le lendemain du jour où il s'était assuré sur la vie. Non, ce n'était pas possible. Assassin John Robbins, mais dans ce cas, il était passible de la chaise électrique. Et alors? Alors la San Francisco Life Insurance Company devrait payer 3 millions de dollars, puisqu'au sud de toute l'Amérique maintenant, le célèbre détective cambrioleur était assuré pour cette somme. Ah, il avait eu une bonne inspiration, Stanley Howard, de traiter avec John Robbins. Il aurait pourtant dû s'en douter. Malgré ses réflexions pessimistes, le directeur de la San Francisco Life conservait encore quelque espoir. Somme toute, on l'avait vu d'autres fois, la police pouvait se tromper. Il convenait de s'enquérir avant de désespérer. Stanley Howard essuya de son mouchoir la sueur humectant ses tempes, aspira une large goulée d'air et, s'étant bien carré dans son fauteuil d'acajou, lut attentivement le récit du crime de la Florida Avenue. Cette nuit, quelques minutes avant 2 heures du matin, le détective Anthony Preston, qui son service finit au galet sur logis, était arrivé devant le numéro 261 de la Florida Avenue lorsqu'il vit la porte de cette maison, qu'il connaissait pour être la demeure de l'attorney général Harry Border, s'ouvrir brusquement. Deux hommes, qui en soutenaient un troisième, sortirent et, sans même refermer la porte, coururent vers la 33e rue qui débouche 40 mètres plus loin dans la Florida Avenue et disparurent bientôt après avoir tourné l'angle. L'homme qu'ils entraînaient devait être blessé car il paraissait se tenir avec peine sur ses jambes. Pris d'un pressentiment et de plus intrigué par ce qu'il venait de voir, Anthony Preston s'élança à la poursuite des trois hommes. Arrivé au coin de la 33e rue, il aperçut une puissante automobile dans laquelle les deux inconnus poussaient leurs camarades. Anthony Preston, d'ailleurs, n'eut pas le temps d'arriver jusqu'à l'auto. Il en était encore à plus de 20 mètres lorsque les deux hommes et leurs camarades y étaient montés et elle démarra avec une vitesse foudroyante dans la direction du port. Anthony Preston remarqua que ses lanternes en cuivre et de dimensions énormes n'étaient pas allumées et que son moteur, sans doute très puissant, était silencieux à un tel point que le détective était arrivé à 20 mètres de la voiture sans en entendre le ronflement caractéristique. Le détective, comprenant l'impossibilité où il se trouvait de rejoindre l'automobile, siffla pour avertir les policemen environnants. Malheureusement, et sans doute parce que c'était l'heure de la relève, personne ne répondit à son appel. Se voyant seul, Anthony Preston résolut d'examiner la maison d'où étaient sortis les trois inconnus. Il rebroussa chemin et atteignit rapidement le 261 de la Florida Avenue. La porte en était toujours ouverte. Sans hésiter, le détective franchit le seuil. Dans le vestibule, une lampe électrique fixée au plafond éclairait la pièce où rien ne paraissait avoir été dérangé. Anthony Preston alla fermer la porte de la rue. Il saisit son revolver par mesure de précaution et entra dans la première pièce dont la porte s'ouvrit à lui. Elle était obscure et silencieuse. Grâce à la clarté de la lune filtrant à travers les lames des volets clos, le détective reconnut qu'il était dans un salon. Il éleva la voix pour appeler « Hola, quelqu'un ?» Il attendit quelques instants sans recevoir de réponse. De plus en plus intrigué, il répéta son appel, toujours sans succès. Il regagna le vestibule et au hasard monta au premier étage. Il vit plusieurs portes toutes fermées. Il frotta une allumette bougie à la lueur de laquelle il aperçut le commutateur d'une lampe électrique qu'il tourna. Au plafond, une lampe s'alluma. Sur une des portes peintes en blanc, le détective reconnut très distinctement l'empreinte d'une main humaine imprimée en rouge. Nul doute, un crime avait été commis. Anthony Preston, son revolver au poing, ouvrit délibérément la porte et entra. La lampe électrique du palier éclairait assez la pièce pour qu'aucun détail n'échappât au détective. Il était dans une chambre à coucher, garnie de somptueux meubles de palissandre, dans la propre chambre à coucher de l'honorable Harry Boulder, attorney général de l'État de Californie. Sur l'épais tapis, deux chaises gisaient renversées. Un des rideaux de velours de gêne garnissant la large fenêtre avait été arraché de son support. Déchiré en deux, il était tombé, entraînant l'embrasse de cuivre doré, et sur le tapis, des taches de boue et de pas indiquaient une lutte féroce. Anthony Preston, ayant ouvert le commutateur de la lampe électrique posée sur la table de nuit, le tourna. Une vive lueur illumina la pièce. Le détective en profita pour continuer son inspection. Soudain, il retint une exclamation d'horreur. Dans un angle de la pièce, un grand paravent fait de fouilles, feuilles de palissandre incrustées étaient posées. Et Anthony Preston, ayant replié ce paravent, découvrit derrière un homme, un vieillard, l'attorné Harry Boulder, pour tout dire, assis sur une chaise et penché immobile sur un petit secrétaire. Harry Boulder était immobile parce qu'il était mort. Une robe de chambre de laine brune l'abritait, et un peu plus bas que sa nuque, le manche d'ivoire d'un poignard enfoncé jusqu'à la garde luisait sous la clarté du lampadaire électrique. Le magistrat avait dû être frappé sans qu'il s'en aperçût, car ses traits étaient restés calmes. Il semblait dormir. De la plaie, peu de sang avait coulé. La robe de chambre l'avait bu, car pas une goutte ne tachait le tapis. Devant le magistrat, quelques papiers, ceux qu'il examinait sans doute lorsqu'il avait été frappé, avaient été laissés par les assassins. Sans doute ceux-ci, leur forfait accompli, s'étaient disputés, d'où les traces de lutte relevées dans la chambre à coucher. Anthony Preston, redevenu calme, continua ses investigations. Il ne découvrit plus rien. Les meubles étaient intacts. Aucun d'eux n'avait été touché. Le détective fouilla rapidement la maison. Elle était vide. Personne. Les assassins savaient sans doute que le vieillard était seul. Anthony Preston allait s'en aller lorsqu'il aperçut dans la chambre à coucher une moitié de boutons de manchette en or portant ses initiales entrelacées, J.S. il la ramassa. Sans s'attarder plus longtemps, le détective sortit de la maison du crime, ferma soigneusement la porte derrière lui et courut à l'hôtel de la police où, quelques minutes plus tard, M. James Morris Scott, chef de la sûreté de San Francisco, le rejoignait. Anthony Preston lui fit aussitôt le récit de sa découverte et lui remit le bouton de manchette trouvé dans la maison de la Florida Avenue. J.S. s'écria M. James Morris Scott, mais c'est John Strobbins. Il n'y a que lui pour perpétrer un crime aussi audacieux. D'ailleurs, je possède l'empreinte de ses doigts. Nous serons vite fixés. Sans tarder, M. James Morris Scott a accompagné d'Anthony Preston et de quatre autres détectives, se rendit au domicile de l'infortuné attorney général. Vu l'heure avancée et la nécessité de procéder au tirage de notre journal, nous n'avons pu continuer notre enquête. Cependant, nous croyons savoir que les empreintes vues par le détective Preston sont bien celles de John Strobbins. Ainsi se terminait l'article du Pacific Times. D'un geste rageur, M. Stanley Howard froissa le journal et se leva. Les employés de la San Francisco Life Insurance le virent hagard et congestionné sortir comme fou. Il courait chercher des détails. Depuis quelques années qu'il poursuivait vainement John Strobbins, James Morris Scott n'avait encore éprouvé de joie comparable à celle que venait de lui occasionner le récit du détective Anthony Preston. L'honorable chef de la Sûreté de San Francisco pensait bien, cette fois-ci, prouver la culpabilité de John Strobbins, l'appréhender et assister à son électrocution. Déjà une fois, Morris Scott avait cru prouver la culpabilité de John Strobbins dans un assassinat. Mais, devant la découverte du vrai coupable, l'innocent du détective cambrioleur avait dû être reconnu. Depuis, John Strobbins s'était joué de Morris Scott, qui, par une sorte d'habitude, pensait aussitôt à lui chaque fois que se commettait un crime de quelque envergure. Et c'est pourquoi, à la vue du bouton de manchette marqué J.S., Morris Scott s'était aussitôt écrié « J.S., mais c'est John Strobbins !» Arrivé à la maison de l'attorney général, Jeff Morris Scott commença son enquête. Aux côtés d'Anthony Preston, il gagna la chambre du crime, tandis que les quatre autres détectives qui l'accompagnaient fouillaient les moindres recoins de l'élégant cottage. Ses recherches, du moins celles effectuées dans la maison, ne donnèrent d'abord aucun résultat. Elles démontraient simplement, premièrement, que l'attentat avait été prémédité, et deuxièmement, que les assassins connaissaient la maison. Ils savaient certainement que, depuis 3 jours, M. Harry Baudelaire avait donné congé à son domestique. L'attorney général avait en effet annoncé à tous ses amis qu'il partait en villégiature à Pasadena. C'est pourquoi nul ne s'était inquiété de sa disparition. On le croyait parti. Et sans la rencontre fortuite du détective Anthony Preston, le crime n'aurait été découvert que bien plus tard. Une chose également était évidente, les assassins s'étaient colletés après le crime. Cette dernière hypothèse était la plus hasardeuse, mais James Morris Scott l'admettait en attendant mieux. Ses investigations terminées, le chef de la Sûreté de San Francisco fit prévenir par téléphone le service anthropométrique pour que celui-ci eût à prendre livraison de la porte où un des assassins avait laissé sa sanglante empreinte. James Molloy Scott, n'ayant plus rien à faire dans la maison de l'honorable Harry Boulder, se retira avec ses hommes et regagna l'hôtel de la police, tandis que ses détectives, habilement camouflés, commençaient leurs recherches. À 11 h, James Molloy Scott reçut les conclusions du médecin légiste qui avait été chargé d'examiner le cadavre de l'infortuné à Tornay. Ses conclusions étaient effarantes. Elles affirmaient que le meurtre avait été commis depuis plus de 48 heures. Mais alors, étaient-ce bien les assassins qu'Anthony Preston avait vus? Oh, Jeff Molston n'y comprenait plus rien. Il tenta de s'expliquer ce mystère en se disant que le criminel, avait sans doute oublié quelque chose, les boutons de John Robbins peut-être, et était venu le chercher. Midi sonna, que le chef de la sûreté réfléchissait toujours. James Molloy Scott se disposait à aller déjeuner lorsqu'un planton pénétrant dans son cabinet lui remit une enveloppe cachetée. Elle émanait du service anthropométrique. James Molloy Scott la reconnut aussitôt. Ses yeux luirent. Il saisit un coupe-papier et fébrilement ouvrit l'enveloppe. Il lut. « Monsieur James Molloy Scott, l'empreinte laissée sur la porte de l'honorable Harry Boulder est, sans le moindre doute possible, celle de John Robbins. Sa netteté, son étendue, m'ont permis de la comparer avec celle que nous possédons déjà de ce délinquant et avec laquelle elle est absolument identique. » Le chef du service anthropométrique, Schmitz. By God, j'en étais sûr, le bandit. Oh, cette fois-ci, il ne me coupera pas le nier. Oh, je l'aurai. À nous deux, John Robbins, s'écria le chef de la sûreté de San Francisco en se levant joyeux. Il regarda le planton immobile devant lui et lui dit: « C'est bien, vous pouvez disposer. »